Vous écoutez
RMC. RMC. 15h-18h, le meilleur du Super Moscato Show.
Adrien Aiguin, Pierre Dorian.
Le Super Moscato Show sur RMC. Et nous sommes ensemble jusqu'à 18h. Oui. C'est comme ça tous les jours, pendant les vacances de Noël. Dans 20 minutes, nous accueillons quelqu'un que vous ne connaissez peut-être pas, mais qui potentiellement pourrait briller au JO de Los Angeles. Il s'appelle Théo Rotard.
Oui.
Et il a signé un exploit historique pour le sport français, un podium en Coupe du Monde de beach volley.
Et oui, il a loupé les JO de Paris. Il n'était pas trop jeune, pas sélectionné. Voilà.
Et il se trouve que le garçon connaissait Vincent, mais Vincent ne s'en souvenait plus.
Exact, ouais. Oui, ils ont joué ensemble au volley. C'est improbable. Au beach volley. Le journal moyen, 16h45, avec du très bon Didier Deschamps en conférence de presse.
Et puis ensuite, à 17h, ça sera la Coupe du Monde de foot à 48 pays. Est-ce que vous trouvez ça génial ou est-ce que ça vous fatigue d'avance? Tout de suite, Antoine Dupont, ça y est, il est enfin de retour. Le meilleur est-il à venir pour le français?
J'aimerais faire rimer l'ordinaire avec l'extraordinaire.
Un match, j'essaie de faire les bons choix de jeu. Et vous, pour vos outils?
Un jeune homme ordinaire par le nom. Mais extraordinaire par le talent.
Ah, la sortie, elle est laissée briller, oui, oh, fabuleuse. Hein.
Ce joueur dont certains se demandent s'il n'est pas le meilleur de l'histoire.
Ils ne vont réussir qu'une chose à faire, c'est le mettre en burning out.
D'autres, s'il va révolutionner le rugby.
Surtout pas expliquer les choses, pas expliquer le rugby.
Comment un jeune campagnard est devenu une star internationale du rugby.
Et tel le phénix, il ressort de sa boîte, comme ça, il gagne.
Autant aimé pour ses performances.
Un moment exceptionnel du rugby français.
Que pour son tempérament.
Qu'il y ait des altercations après un mauvais match, parfois ça expurge quelques limuriers, je sais pas comment on dit.
Moscato, il va te le régler le problème.
Voilà. Donc, comme quoi, il n'y a pas que Deschamps hein, dans la vie.
Tiens, j'en profite pour vous dire, et c'est une excellente nouvelle pour tous ceux et toutes celles qui nous écoutent. Si vous aimez les productions de Suzanne Folly, ouais. Bah, désormais, tous les soirs à 18h, vous aurez un petit podcast.
Excellent.
Avec juste la prod de l'illustration du débat.
Mais comment on n'a pas eu cette idée avant?
Bah, c'est une promotion pour Suzanne.
Mais pourquoi on ne fait pas ça depuis un an?
Parce qu'avant, on avait Loïc. Et pour faire 2 minutes l'illustration, il aurait fallu 6 mois.
Non, mais donc, vous pouvez les réécouter en boucle, par exemple.
Ouais, mais écoute, c'est fou, ça. Alors là, elle va devenir encore plus méchante. Alors là, écoute-moi, ça me tenait.
Alors, on y va sur Antoine Dupont. Donc, il devrait rejouer fin novembre après sa rupture des ligaments croisés du genou droit. C'est la deuxième fois, hein. Les attentes sont à la hauteur de son talent, évidemment. Un doublé en club, on peut l'imaginer. Et puis, il y a 2 tournois qui arrivent avant la Coupe du Monde et une Coupe du Monde qui sera peut-être une apothéose pour Dupont. À 29 ans, le meilleur est-il à venir pour Antoine Dupont, selon vous, Vincent Moscato? Tu vas régler ce problème-là tout de suite. 32-16 pour débattre avec nous. Wilfried Templier en direct de Toulouse. Salut Wilfried.
Wilfried. Salut tout le monde.
Tu vas nous donner des nouvelles d'Antoine Dupont. A priori, on se rapproche d'un retour.
Bon, on n'y est pas encore, mais il voit le bout du tunnel. Hein, 6 mois après sa rupture du ligament croisé du genou droit à Dublin, comme en 2018, hein, le même genou, tu l'as dit Pierrot. Il a quand même dit cet été vouloir prendre son temps, vu la récidive. Il a passé 2 semaines en Suisse au début de l'été dans un centre de médecine et du sport. On l'a récemment aperçu à l'entraînement du Stade Toulousain, que ce soit lors du stage d'avant-saison en Bretagne ou même à Ernest Vallon, sur du jeu au pied uniquement, hein, sur ces images, les images qu'on a vues. Pas de collectif évidemment pour le moment. Il a prévu la reprise d'appui d'ici la fin du mois. Alors, interrogé sur la santé de son joueur la semaine dernière, le manager Hugo Mola a donné de ses nouvelles.
Antoine, il est, comme tous les joueurs blessés, présent dans la grande majorité du temps au club. Ensuite, on a un mode de fonctionnement qui fait que dès l'instant qu'un joueur est blessé de plus de 6 à 8 semaines, une partie de sa rééducation, une partie de sa réathlétisation ne se fait pas au club. Parce qu'on a pris cette décision maintenant il y a 4-5 ans. Donc, on s'est organisé aussi en conséquence pour que nos joueurs puissent aller déjà chercher des compétences ailleurs, mais aussi se permettre d'avoir une sorte de fraîcheur.
Et il a aussi répondu sur le fait que l'on avait beaucoup vu Dupont dans d'autres endroits que les terrains de rugby, à Roland-Garros, au Festival de Cannes. Il a même parlé, ouais. Répondu, il est prévu un peu ça, hein. Il a parlé de Dupont bashing sur les réseaux sociaux. Personnellement, ça m'avait un peu échappé. Au pire, faut pas prêter attention à certaines critiques d'une partie du public. Mais ça a permis à Mola de préciser l'agenda à venir de son joueur.
Ne vous inquiétez pas, Antoine est souvent avec nous, il est là, là il va partir. Donc avant que vous le voyez sur les réseaux sociaux, il va partir dans 2 centres de rééducation à l'étranger. Et il nous permet aussi d'ouvrir des portes dans des endroits où on avait envie d'explorer, mais c'est plus facile quand c'est Antoine Dupont qu'Hugo Mola ou Jérôme Casalbou. Donc on arrive à s'ouvrir des portes intéressantes. Et ne tombez pas dans le panneau de croire que chaque fois que vous le voyez en photo, il est absent d'ici.
Alors, il a encore des étapes à valider avant son retour, mais derrière des objectifs clairs, notamment chez les Bleus, un tournoi destination où le 15 de France peut viser un grand chelem avec les réceptions de l'Irlande et l'Angleterre. Et dans moins de 2 ans, tu l'as dit Pierre aussi, le seul titre qu'il manque à Dupont, mais aussi à tout le rugby français, la Coupe du Monde en Australie qui débutera le 1er octobre 2027. Et d'ici là, il sera peut-être redevenu le meilleur joueur du monde.
C'est dans 2 ans, la Coupe du Monde. On est à la moitié du chemin, là, déjà. Hein, ça va vite, hein.
Ah bah oui, ça va très très vite.
Il disputera la Coupe du Monde à la fin
de l'année. On a parlé d'arbitrage contre l'Afrique du Sud, donc ça arrive vite.
On va commencer à parler de la prochaine erreur d'arbitrage.
À venir. Vincent, donc toi tu es très optimiste, tu penses que le meilleur est probablement à venir.
Mais le meilleur, il est dans le meilleur, ça fait déjà 2-3 ans qu'il est dans le meilleur. Ça va continuer, je te dis pas qu'il va encore aller encore plus haut, pourquoi pas.
Mais il faut engranger les titres.
Non mais il faut engranger, voilà, le meilleur est à venir, oui, parce qu'il y a un titre peut-être en 2027. On a loupé celui de 2023 qui nous tendait les mains quand même, faut pas, c'était à nous, c'était cette fois-ci, c'était à nous à le prendre.
Ah bon,
ça s'est joué, ah quand même, on avait, je pense, la meilleure équipe, je pense.
Ah
que
bon,
elle, c'était la plus complète. On a perdu t'as perdu sur le match.
On peut se poser la question, même si c'était... on perd en quart, on pourra en faire un débat, est-ce que c'était pas la fois où on est passé le plus près?
Oui, voilà,
paradoxalement
il y avait d'Irlande aussi, il y avait un voisin d'Irlande, il y avait les Blacks aussi, mais il me semble qu'il y avait de la place. On avait du talent, on avait battu tout le monde, il y avait du talent pour cette équipe, elle était complète. C'est il y a foiré, les dieux étaient pas avec nous, tu veux ce que tu... On a été battus, donc.
Lui, il va toujours rester aussi fort, tu penses?
Il va toujours rester aussi fort, voire mieux. D'après moi, comme il joue peu, t'as vu, il est quand même très, très mis de côté. Il se repose, il joue un peu. C'est un joueur de football américain, quoi.
Il joue très peu, quand même.
Ouais, mais c'est ça qui est bien. Il joue 15-20 matchs, et tu t'aperçois de plus en plus que dans ce jeu, moins tu joues, mieux t'es. Donc.
Et le deuxième genou, le même genou, c'est pas.
Alors là, après, moi, je suis pas médecin. Moi aussi, je me pose cette question.
Il y a un mystère, quand même.
Adrien, je me pose cette question, moi aussi. Le même genou. Est-ce que c'est pas de chance? Est-ce que c'est une faiblesse qu'il avait? Moi, je ne sais pas, je pense pas, parce que maintenant, les mecs qui te les rafistolent, c'est comme un œuf, hein. C'est comme le lavabo, hein. Quand c'est lavé, c'est comme un œuf, hein. Ça brille, hein, la céramique, hein. Donc, écoute-moi, je pense que ça va s'ouvrir, que ça se fait bien. Il n'y a plus un mec maintenant qui, c'est rare qu'il y ait un mec qui se répète dans la foulée. Donc, le meilleur est là, déjà, pas mal de,
mais
un titre fera qu'il y a des belles choses à venir. Je crois qu'il fera 2 Coupes du Monde. Moi, je mets un billet, parce qu'il aura 34 et quelques à la prochaine, et c'est un mec qui est quand même, il n'y a pas un mec à son niveau, il va le garder longtemps, il va garder ce niveau-là très longtemps, et d'après moi, on n'a pas fini d'entendre parler du pot, ça, c'est le rôle fait.
Très bien, 32-16 pour débattre de Antoine Dupont. Éric Dimeco.
Pour faire ce débat, on est obligé de faire abstraction des blessures, dans le sens où on ne sait pas comment ça s'est passé, comment ça va réagir. On n'est pas docteur, on n'est pas dans son corps, donc on va partir du principe que Dupont est le meilleur joueur du monde et qu'il a, comment vous avez dit, 29.
Oui. Il va avoir 29 le 15 novembre.
Voilà, ouais. Il va avoir 29 ans. Généralement, c'est quand même l'âge de la maturité. C'est généralement, dans tous les sports, je pense qu'au basket, c'est à peu près la même chose. Mais c'est là où tu connais ton corps parfaitement, tu connais physiquement ce dont tu as besoin, tu es plus foufou à sortir et faire le con, parce que quand tu es jeune, tu profites aussi un peu de la vie. Donc là, tu sais que tout ce que tu fais, tu le payes. Donc généralement, c'est dans ces périodes-là que tu es le plus fort, entre 27 et 32. 31, 32, moi je pense que c'est les plus belles années. Donc il est en plein dedans, donc il n'y a pas de réseau qu'il soit moins fort. Le seul bémol qu'on peut mettre finalement, c'est cette histoire de blessure. Et c'est pour ça que je fais abstraction pour faire ce débat, parce que malheureusement, nous, on ne sait pas tout, et tant mieux d'ailleurs. Voilà, il y a les docteurs du Stade Toulousain qui savent s'il a vraiment une fragilité ou non, ou si c'est faute à pas de chance. Ça arrive, et de nos jours, il y en a plein, hein, qui se font une fois, deux fois les croisés, et derrière, ça ils reviennent comme si de rien n'était, puisque maintenant les croisés, c'est devenu presque une
grippe.
C'est long, parce que maintenant ils ont allongé un peu les délais de reprise pour pas que les mecs se massacrent les genoux, et tant mieux d'ailleurs, sinon ça ferait tous des mauvais petits vieux, mais c'est toujours long. Mais par contre, tu reviens en pleine bourre de croisés. Il y a une génération, la génération juste avant nous, enfin je dis Vincent, je dis nous, parce qu'on est à peu près, on est à la même génération, juste avant nous, les mecs, quand ils avaient les croisés, ils savaient plus s'ils allaient refaire du sport de haut niveau derrière. Il y avait le doute. Là, il y a eu tellement de progrès que bon, maintenant c'est voilà. Alors après, il faut pas avoir de grosses fragilités, et ça, nous, on peut pas le savoir. Donc si c'est que sportivement à 29 ans, mais c'est là et tu bouffes tout. Et en plus, lui, il est frais. Le meilleur est à venir, bien sûr.
C'est Stéphane.
Parce que je te dis un truc, t'as raison de le dire. Excuse-moi, Stéphane, mais même il y a les mecs qui avaient 7 ans, 8 ans, 10 ans de plus que nous, souvent on les opérait pas même. On leur faisait faire de la muscu à Donf, certains.
Pour consolider.
Parce qu'ils n'étaient pas sûrs de l'opération,
a été risquée, ouais.
Alors là, je vais te dire que les mecs, ils avaient des fins de carrière, ils souffraient, c'était tout en camon, ils étaient de l'élastoplasme, hein. Ils en avaient des 5 kilomètres à chaque genou, hein.
Steve.
Le meilleur est, enfin, il a quand même peu de kilomètres au compteur, hein, Antoine Dupont, quand tu penses à 29 ans, parce que par deux raison. Opérations des croisés, ça veut dire 14 mois de rugby en moins. Il y a cette saison où il a fait les JO, avec le rugby à 7, où il a quasiment pas joué la saison, c'est-à-dire que c'est un garçon de 29 ans, mais pas usé par le rugby, le nombre de matchs qu'il a au compteur. Donc l'aspect fraîcheur, l'aspect envie, l'aspect motivation, elle va être là. Qu'est-ce qu'il a? Tu joues à Toulouse, des titres, tu vas en avoir. C'est pas forcément automatique, mais il y a quand même de grandes chances que tu complètes ton palmarès, que ce soit en top 14 ou en Champions Cup. Maintenant, quelle est la finalité de la carrière d'Antoine Dupont? On la connaît tous. C'est avec le 15 de France. Être champion du monde avec le 15 de France. Parce qu'à la fin de sa carrière, Antoine Dupont, il aura peut-être gagné 6, 7, 8, 9 fois le Brennus, quelques tours à destination.
Les Jeux Olympiques, n'oublie jamais les Jeux Olympiques.
Il l'a déjà. Mais si t'es pas champion du monde avec cette génération qu'on dit qui est exceptionnelle, eh ben, on fera des débats dans cette même émission, si elle existe encore, en disant est-ce que Antoine Dupont, finalement, sa carrière, est-ce qu'elle est aboutie? Non. Le tour à destination, la tournée là, il va pas la jouer. Il a une petite pression sur son retour en février. Ça démarre avec un France-Irlande, puisque la France est tenante du titre quand même du tour de destination.
On n'a pas fait le grand chelem, on a gagné le tournoi.
Oui, on n'a pas fait le grand chelem, on a gagné le tournoi. Et on a gagné le tournoi où lui s'est blessé, et c'est Maxime Lucu qui a été exceptionnel pour terminer le tournoi. Après sa blessure, cette fragilité, on se rappelle tous de comment il s'est fait les croisés. C'est n'importe qui, ça pète, hein. Il y a un mec qui lui tombe dessus, il a un appui, voilà, ça pète, ouais, ça pète peut... pour n'importe qui. Maintenant, qui reviennent au plus haut niveau, moi j'ai pas de doute là-dessus. Aujourd'hui, des mecs qui sont revenus des croisés, même des doubles croisés, il y en a un paquet d'exemples. Le problème, c'est combien de temps va-t-il mettre pour redevenir l'Antoine Dupont qu'il était? Ça, c'est une vraie interrogation. L'appréhension du contact, je suis pas sûr que ça soit ça, mais les automatismes avec ses coéquipiers, combien de temps il va remettre pour revenir le meilleur joueur du monde,
4,
le numéro 9 au monde?
4, 5 matchs.
5 matchs.
4, 5 matchs.
5 matchs.
Ça va vite parce que les mecs, ils sont. Combien du contact? C'est sport à contact. Ouais. Tu fais beaucoup d'opposition avant de rentrer en scène. Tu t'entraînes énormément. Ouais. T'es très prêt. T'as des préparations physiques qui sont super maintenant. Donc ça va très très vite. Très très vite. Il a le sens ça va aller vite.
Après Vincent, la pression, il a raison, Stephen, elle est sur les Bleus. Que lui, qui incarne la génération Dupont, hein, la génération de ce 15 de France, il faut pas qu'il termine avec un seul grand chelem. Hein. Faut des gens. Déjà pendant du tournoi avant la Coupe du Monde, faut gagner au moins un grand chelem supplémentaire.
Tu es
sinon, il y a un décalage avec leur niveau.
Tu es seigneur. De ce niveau-là, qu'est-ce qu'on attend qu'il fasse gagner son équipe? Qu'il soit champion du monde avec son équipe. On n'attend pas qu'il gagne la Coupe à Toto. C'est pas la Coupe à Toto.
Et n'oublions pas, Vincent, que quand même, l'équipe de France, ça fait trois Coupes du Monde qu'on dépasse pas les quarts de finale. Hein. Oui, donc déjà, même avant de parler de la gagner, vibrons jusqu'en demi.
Ouais, non, mais on était les plus forts.
On était la meilleure équipe.
On était les plus forts, quand même. Ça compte pas, ça. On était les plus forts.
Toujours à se flageller. Toujours.
J'ai peur de vous dire qu'on était, j'ai même pas peur. Je vous affirme, je suis même heureux de vous dire qu'on était les plus forts, et j'ai peur de vous dire qu'on a perdu malgré nous.
Pas sur les chandelles.
Ouais.
Mais pas sur les chandelles.
Alors ça y est, maintenant Wilfried rejoint
Wilfried.
Stephen Brun, Eric Dimeco.
Non, mais c'est pas les grands jeux, dis-moi. Wilfried, si vous êtes content de perdre un quart de finale, vous.
Eric, à l'Eurobasket, là, à Riga.
C'était les plus forts.
À l'Eurobasket, à Riga, l'équipe de France, c'est la meilleure équipe.
De 20 été.
Est-ce que.
Rappelez-vous.
Non. Alors vas-y.
Rappelez-vous, et là, vous allez m'en être témoin si vous ne regarderez pas parce que vous êtes des feignasses, vous ne reviendrez pas en arrière. Regardez. Et oui, toi, surtout toi, Wilfried. Parce que toi, Wilfried,
tu vas me dire que tu regardes beaucoup les matchs.
Regarde les 40 premières minutes, comment on les démonte devant. Comment s'il n'y a pas cette interception
match, prennent... Après, on s'éteint en deuxième mi-temps.
Il y a Stan avant de l'autre.
Il s'est endormi en deuxième mi-temps. On n'était pas loin, Vincent, c'est vrai. Mais d'ailleurs, avec un Dupont à 100%, Vincent, on serait sûrement passé. On serait sûrement passé avec un Dupont à 100%. Il était loin d'être à 100%.
Rappelez-moi pas de Dupont. Allez, hop. Allez.
Et Turo.
Le skieur.
Ouais, le skieur.
C'est intéressant, Vincent.
Quand il y a la marre de.
Quand on est. Cette Coupe du Monde-là, avant d'être éliminé en quart de finale, est-ce qu'on fait une grande Coupe du Monde? Est-ce que les Bleus font.
Oui, on est capable.
Enfin, je vais contre les blagues d'exception quand même.
Mais arrêtez de vous flageller.
Il y a une erreur d'arbitrage.
Marre de vous, là.
Qui te tue. L'erreur d'arbitrage, je te tue. Il doit prendre un carton rouge.
Donc tu perds d'un point contre les champions du monde en ayant un arbitrage pas très favorable quand même.
Tu perds des choulards.
Parce que c'est les quarts de finale. Qu'on est nul.
Il y a des sounards qui mettent deux quilles qui leur rebondissent sur la tête. Regarde le match. Ils le prennent dans les bras et ils vont marquer que si jamais ça leur arrivait à une centaine de rugby au Springboks de marquer des essais comme ça en quart de finale. Bon. Jamais. C'est des pompes. Voilà.
Non, mais c'est vrai que tu perds deux points. Tu gagnais les demi-finales, c'était sûr. C'était écrit, bien sûr. Et la finale aussi, bien sûr.
Et toi, dis-moi, les Anglais, c'est la meilleure équipe du monde maintenant.
Bien sûr.
Mais non, mais toi, tu
t'es les meilleurs. Non mais ce qu'il y a de bien, Steve, c'est que franchement, à Riga, l'équipe de France, c'était les meilleurs.
C'était les meilleurs. Ouais, on est plus là.
Ouais, c'était les meilleurs.
Vous refaites le même genre d'erreur que tu as fait déjà sur le débat de tennis, Eric, c'est que vous ne regardez que le résultat et pas le contenu. Le contenu de l'équipe de France de basket, il est très mauvais et il n'avait aucune chance d'être champion d'Europe. Voilà. Alors que le contenu de l'équipe de France de rugby, il était très bon et on aurait très bien pu être champion du monde.
Regarde Bayrou, le contenu était très bon. On l'a pas compris.
Pas que,
c'était pas terrible, alors
pas que, c'est-à-dire pas que.
Bah, parce que quand je dis, on prend deux essais sur chandelle, bah, en quart de finale de Coupe du Monde, tu peux pas dégueuler les ballons sur deux chandelles.
Tu as raison.
C'est quand même important. C'est important qu'ils ont de la chance, mais évidemment, on doit savoir prendre les chandelles. C'est notre problème depuis 50 ans de pas prendre les chandelles.
Ouais, mais quelle est l'équipe qui a perdu sur deux chandelles? En centaine de rugby, tu l'as jamais vu. Là, c'est arrivé là. On avait le chat noir.
On était les meilleurs du monde, mais.
Voilà, le chat noir.
Eric, il était bon aux chandelles. Que ce quart de finale perdu d'un point dans des circonstances pas favorables, on avait ni Dupont ni Ntamack, au passage.
Exactement. Moi, je me mets dans la peau des Penauds, des Dupont et tout ça, de perdre ce match. C'est une honte. On n'est pas chouard.
C'est vrai, vous m'avez convaincu, on était les meilleurs du monde.
Et on arrive toujours à refaire ce quart de finale. On débat de Dupont. On refait sans cesse. Il va falloir s'en détacher de ça. Il va falloir tuer ce quart de finale France-Afrique du Sud en Coupe du Monde.
J'espère que Dupont sera en pleine bourre pour le tournoi. Ça arrive très vite. C'est dans un mois.
Traumatisé. Beach volley à venir, Pierrot et rallye. Joli programme.
Alors, l'UB reste-t-il au-dessus d'Ogier? Vous savez que Sébastien Ogier a égalé le nombre de titres de champion du monde de Sébastien l'UB. Mais d'abord, donc, Théo Rotard, le beach volley, ça arrive tout de suite sur RMC.
RMC, jusqu'à 18h, le meilleur du Super Moscato Show.
Adrien Aygouin, Pierre Dorian.
Il est 16h30 sur RMC. Vous écoutez le Super Moscato Show et dans une demi-heure, nous allons débattre de la Coupe du Monde de foot à 48 pays. Ce sera la première fois, hein. C'est la première édition à 48.
Tu vois, Sao, Haïti, Panama.
Forcément, voilà, il y a des nouveaux pays qu'on n'a jamais vus, dont on ne connaît absolument pas le niveau footballistique. On va découvrir tout ça. Est-ce que ça vous plaît ou pas? Est-ce que vous faites votre grincheux comme Vincent Moscato?
Dans 10 minutes, le journal
juste
moyen.
Avant, il y aura le journal moyen.
Genre dans un peu plus de 10 minutes, journal moyen avec Didier Deschamps. Restez bien là, Didier Deschamps, conférence de presse. C'est un classique du Super Moscato Show.
Mais d'abord, le rallye et le beach volley.
RMC.
Le cri du cœur du Super Moscato Show.
Notre cri du cœur, c'est Théo Rotard, médaillé de bronze des championnats du monde de beach volley. C'est la première médaille mondiale de la France dans cette discipline. C'est historique et c'était en duo avec Arnaud Gauthiera. Théo est venu seul aujourd'hui. Salut Théo.
Salut Théo. Salut à tous, merci de me recevoir.
Il y a du gabarit qui est entré dans ce studio, Vincent.
Fais-nous les mesurations, puisque toi tu sais faire.
2,5 m, il fait et il doit faire 12 kilos, 13.
Ah, 93, exactement.
T'as à l'œil, Vincent, t'es là.
Combien de haut? De 4, c'est ça?
2,4 m.
Allez, putain, mais ça, c'est phénomène, non?
C'est phénomène.
Vincent, il se trompe jamais, faut savoir.
Il lui a demandé je viens de la campagne.
Ah, tu viens de demander,
Non, pas le poids.
Ah, pas le poids.
Mais non, mais je t'ai dit qu'il fait 2,5 m. Mais quand c'est fou, quand même, ferais passer pour un gros.
Alors, tu reviens d'Adélaïde, donc, où avaient lieu ces champions du monde. Médaille de bronze mondiale autour du cou. Avec quel sentiment, quand on dit que c'est historique, est-ce que tu le vis comme ça?
Oui, bah, je réalise là un petit peu plus maintenant que ça fait 2 jours. Beaucoup de fierté parce que voilà, on s'y attendait pas forcément au vu de la préparation qu'on a eue juste avant les championnats du monde. Moi, j'ai été blessé au psoas, j'ai une déchirure un mois avant, donc on savait pas vraiment si on allait pouvoir jouer. Au final, on a fait un super boulot avec tout le staff et notamment le kiné. Et voilà, beaucoup de fierté de représenter la France et d'apporter cette médaille qui est historique. Et voilà.
Alors, vous perdez en demi-finale contre une paire suédoise. Et en finale, il y a deux paires suédoises face à face. On savait pas. Alors, c'est vrai qu'on ne s'y intéresse pas tous les jours, on va pas se mentir. Mais que les Suédois dominaient le beach mondial.
Ouais, bah pour eux aussi, pour le coup, c'est historique d'avoir deux équipes du même pays en finale. Et c'est vrai que historiquement, la Suède n'est pas un pays de beach volley. Il y a pas énormément de plages comparé par exemple au Brésil ou aux États-Unis. Mais ils ont développé des équipes là, donc deux équipes en l'occurrence très fortes depuis 4-5 ans. Également la Norvège qui sont numéro 1 mondiaux.
T'imagines les mecs quand tu leur dis on va aller à la plage, tous ils se jettent sur ce sport.
Ils ont des gymnases avec du sable pour bosser du coup, comment ça marche?
Ouais, exactement. Bon, ils ont aussi des terrains extérieurs, mais ils ont énormément de halles où il y a des terrains en Suède. J'ai eu l'occasion d'y aller l'année dernière à Stockholm. Et après, sinon, ils passent beaucoup de temps dans l'année à l'étranger, à Tenerife.
Ce sont tous des volleyeurs confirmés à la base.
Ah oui, ouais. Là,
c'est la base. Mais de très bons.
Toi aussi, du coup?
J'ai commencé avec le volley. Après, je me suis spécialisé un peu plus tard au beach. Mais eux, pour le coup, ils ont commencé le beach très tôt, vers 14 ans. Et c'est ce qui fait qu'ils arrivent à maturité. Là, ceux qu'on fait deuxième, du coup, ils ont 19 et 20 ans. Ils sont encore plus jeunes que moi. Ah ouais. Et les champions du monde, là, ils ont 24 et 23 ans. Donc,
Alors, en gros, le fait que le sport soit olympique, ça crée un développement fabuleux. C'est-à-dire que toutes ces nations se seraient-elles mises au beach si ça n'avait pas rapporté des médailles olympiques?
Je pense pas. Effectivement, c'est vrai que le rêve un peu olympique et toutes les valeurs olympiques, elles ont permis le développement du beach et ça pousse les équipes à s'y mettre. Et c'est un sport qui mérite, je pense, plus de visibilité parce qu'il est très visuel. Quand on regarde maintenant des matchs de très haut niveau, c'est vraiment dynamique. Et là, le stade était plein pour le jour de la finale, donc c'était super beau à voir.
Est-ce qu'une médaille française olympique, c'est aujourd'hui envisageable? C'est du domaine du possible?
Bah, tout est possible, j'ai envie de vous dire. Si on m'avait dit il y a deux semaines qu'on aurait une médaille au championnat du monde, je sais pas si j'aurais cru. Donc,
il y avait les tout meilleurs, ouais.
Aucun absent et c'est vraiment la compétition de référence après les JO, c'est la plus grosse compétition, c'est tous les deux ans, donc tout le monde est censé s'y préparer, être au top de sa forme à ce moment-là. Voilà, maintenant pour nous l'objectif ça va être aussi les JO de Los Angeles en 2028 et je pense que c'est une bonne étape de passer là de confirmer sur un tournoi comme les championnats du monde et ça sera l'objectif en 2028.
On sent dans le volley moderne que le service est primordial. Les mecs engagent, fout des patates à combien de kilomètres heure tu l'envoies toi?
Ça ressemble beaucoup au tennis dans le jeu aussi, le service.
On essaye d'abréger, surtout si t'es deux, t'essayes d'abréger les échanges en foutant une énorme patate sur le service.
Exactement, ouais, en mettant des aces. Deux types de services principaux au beach volley. Il y a le service flottant, ça c'est plus du tactique.
Oui.
Et où l'effet. Tu places le ballon, c'est stratégique.
Ouais, tu places le ballon et l'effet flottant, c'est que le ballon change
le vrille un peu.
Le travail de la réception aussi, du réceptionniste.
Exactement, ouais. Si on sait qu'il réceptionne moins bien sur son côté gauche, on va peut-être plutôt.
Et après, t'as le service bourrin qui est censé détruire l'adversaire.
Le service matché, où là, on peut envoyer pas mal de patates. Il y a un Brésilien qui s'appelle Evandro, qui est meilleur serveur depuis, je pense, 6 ans d'affilée. Il sert ce matché super bien. Et là, ça peut aller aux 100 km/h.
Pour bien se rendre compte de la différence entre le volley et le beach volley, question. Erwin Gapet, au sommet de sa forme, est-ce qu'il dominerait le beach volley? Est-ce qu'il se baladerait ou c'est complètement différent?
Alors, c'est une bonne question. C'est vrai qu'Erwin, c'est un des meilleurs joueurs de tous les temps, volley en salle. Maintenant, avec la capacité physique qu'il a, c'est-à-dire qu'il est pas super grand, je crois qu'il fait 1m94. Niveau détente, je sais pas s'il a une super grosse détente.
Il est un peu lourd en plus.
Et puis là, il est un peu lourd.
Il veut pas le dire, mais la réponse est non.
Non, non,
il serait pas nul.
Je pense pas qu'il serait nul. C'est un sport complètement différent. Faudrait voir ce que ça donne. Je sais qu'il est plus adepte du 3 contre 3 que du 2 contre 2. Mais pourquoi pas un jour le défi, voir ce que ça donne. Mais
c'est le 5 contre 3, lui.
Nous, on a eu Dupont quand même, qui vient du 15, qui a été champion du monde olympique avec le 7.
Ouais,
et qui s'est baladé.
Oui,
et oui.
Mais c'est le seul sport comme ça.
Yannick Bazin, qui est un ancien joueur de l'équipe de France de volley en salle. Fais attention à lui.
Ouais.
Qui souvent, l'été, il est en activité en volley la saison normale à Paris, par exemple. Et l'été, il faisait les tournées de beach volley.
Ouais, non, mais ça, c'est pour attraper les nanas.
Il était pas mal.
C'est un très bon joueur de 3 contre 3, justement. Parce qu'en France, on a beaucoup cette culture de jouer en 3 contre 3.
Okay.
Et c'est les règles de voler en salle. C'est-à-dire qu'on peut pousser les ballons. Au beach volley, il y a des règles un peu plus spécifiques. Et ce sport, donc le 3 contre 3, qui est vraiment que en France, parce qu'il n'y en a pas trop à l'étranger, ça a permis aussi de beaucoup développer la pratique. Et c'est vraiment aussi pour ça que, par exemple, l'équipe de France, qui est championne olympique, a permis d'être aussi forte, parce qu'elle est très technique.
Ouais, ouais.
Et nous, on aime bien faire du 3 contre 3 de temps en temps pour rigoler, etc. Mais c'est quand même assez différent du 2 contre 2 olympique, quoi.
Théo Rotard, médaillé de bronze des championnats du monde de beach volley dans le Super Moscato Show.
Tu es venu comment? Ta mère joue au volley?
Alors, bah, moi, c'est un peu toute ma famille. Il y a mon grand-père qui a
été. J'ai vu ta mère qui a l'air.
Elle est là, en train de te filmer là-bas.
Comme tout, je pense qu'elle joue au volley, non, ta mère?
C'est mon grand-père qui a été dirigeant du club de Chaumont Volleyball, qui est actuellement en Liga. Pendant 35 ans, mon père qui a joué en équipe nationale en Roumanie, ma mère qui a joué en deuxième division française, et ma sœur qui est en équipe de France de volley en salle et qui a fait les JO à Paris aussi. Donc j'ai baigné depuis tout petit dedans.
Et le beach, t'es arrivé à quel âge?
Le beach, moi, c'est arrivé à 15 ans.
Tard quand même.
Il y a 6 ans. Ouais, assez tard, mais pour le beach volley, c'est tôt.
Tard. Pour le beach, pourquoi? Il y en a qui font que du beach toute leur vie?
Eh ben, de plus en plus. Moi, mon âge, ça a été la plus jeune génération un peu en France, parce que généralement, on se spécialisait vers 20 ans, 21 ans.
Ah oui, oui.
Mais maintenant, il y a des pôles espoirs qui ont été créés.
Tu peux pas faire les deux. Avoir un contrat, mettons, dans un club, tu joues, mettons, au PUC, t'as un contrat, et puis l'été, tu fais les tournées des plages. Hein. Comme Patrick Sébastien.
J'ai pas pensé.
Au Cap d'Agde. On fait tourner.
Et au retard, pourquoi tu n'étais pas au JO à Paris? Pas encore à ce niveau-là?
En fait, ça a été une décision fédérale, parce que j'avais joué du coup à un tournoi qualificatif avec Arnaud, justement, qui n'était pas mon partenaire actuel à l'époque. Un tournoi qualificatif
Arnaud
qu'on avait
Gautira.
Remporté. Voilà, qui avait permis de qualifier une deuxième équipe au JO. Et après, le choix a dû se faire du coup entre moi et Arthur, ou Julien Linel et Rémi Bassereau. Et la fédération du coup a choisi d'envoyer cette équipe-là pour avoir une deuxième équipe au JO.
C'est compliqué, parce que toi, tu te dis en duo avec qui tu préfères jouer.
Ouais.
Ça crée quand même des tensions.
Oui,
parce que
clair.
Si d'ailleurs, le mec il sait que toi t'as choisi un autre mec,
c'était vous êtes que deux, conflictuel là, avec coupe. La Fédé d'ailleurs. On n'est pas obligé de s'arrêter dessus, mais ça a été un peu chaud. Les sélections du beach volley pour les JO, si je me souviens
oui,
bien.
Oui, ça, pas forcément par rapport à moi, mais parce qu'à la base, il n'y avait qu'une seule équipe qui devait être qualifiée. Mmh. Et puis au dernier moment, notre tournoi qualificatif remporté, ça a un peu sauvé. Sauver tout le monde, parce qu'il y avait plus équipes qualifiées, donc il y avait moins de conflits.
Le site était fantastique quand même.
21 ans,
ouais.
Jeune.
Est-ce que, alors, c'est vrai que le beach volley, c'est très, très télégénique, très visuel.
Très beau, c'est spectateur.
Il y a des cadres magnifiques, mais un cadre comme celui des JO de Paris, est-ce que ça, on pourra le revoir? Je sais qu'il y a des cadres idylliques, hein.
Oui, c'est clair. Quand tu vas au Brésil, les JO de Paris, enfin, au pied de la Tour Eiffel, je pense que c'est du jamais vu. Je sais pas s'ils comptent réorganiser un tournoi au pied de la Tour Eiffel.
Est-ce que ça a fait causer sur le circuit? Est-ce que les étrangers ont trouvé ça super, par exemple?
Ouais, clairement, j'ai entendu beaucoup de personnes dire que c'était le plus beau spot de tous les temps des JO, et même Los Angeles, ce sera historique parce que c'est sur la plage où le beach volley a commencé, à Long Beach. Mais
Vous êtes baigné après à Paris plage maintenant.
Dans la Seine maintenant.
Dans la Seine. Oui, tu peux te baigner. Ouais. Notre mère s'est baignée.
Mais tu sais que cet été, dans le canal Saint-Martin, les Parisiens se baignaient.
Toi, sois ton tapis. Toi, sois ton traverse à pied.
Ah oui, ça, je peux traverser à pied. Hein.
À branle.
Théo Rotard, donc médaillé de bronze des championnats du monde de beach volley. Et on le rappelle, c'est historique. C'est la première médaille française à ce niveau en beach. Merci beaucoup. Félicitations.
Bravo, mon gars.
Merci à vous.
C'est bien.
Théo Rotard, voilà. J'espère que ce garçon. On fera d'autres des podiums, et notamment au JO de Los Angeles. On enchaîne tout de suite avec le rallye. On était juste avant le 9e titre de Sébastien Ogier.
Et on se demandait si, quoi qu'il arrive, qu'il soit champion du monde ou pas, si Sébastien Loeb restait devant lui tout de même.
RMC,
le cri du cœur du super Moscato Show.
Je vous rappelle que samedi, Sébastien Ogier a l'occasion de devenir champion du monde pour la 9e fois, comme Sébastien Loeb. Match entre deux immenses champions. Loeb reste-t-il au-dessus d'Ogier selon vous? On va essayer de les départager. Alors bien sûr, pour l'instant, il y a un titre de plus pour Loeb, hein, puisque c'est pas gagné pour Ogier, mais Nicolas Paolorsi a fait le détail de ces deux palmarès immenses. Salut Nico.
Salut Moscato Show.
Salut à tous.
Qu'est-ce qui les différencie?
Alors déjà, tu parlais des potentiels 9 titres pour d'Ogier, pardon, on se projette sur ça. Loeb, c'est 9 titres, mais c'est 9 titres consécutifs, entre 2004 et 2012, qu'a pas fait Sébastien Ogier. Sébastien Loeb, c'est 80 victoires en WRC, c'est le total le plus élevé de l'histoire, et c'est un ratio de victoires de 50%, c'est-à-dire que un départ sur deux, Vincent, Loeb, on savait qu'il allait gagner la course, et c'est environ 120 podiums en carrière pour Sébastien Loeb. Sébastien Ogier, c'est différent. Déjà, il a 8 titres. Il a 8 titres qu'il a gagné avec 3 équipes différentes. Ce qui n'est pas le cas de Loeb, hein, qui a fait toute sa carrière chez Citroën. C'est 66 victoires, Ogier. Et c'est en longévité plus fort que Loeb, parce qu'en plus, Sébastien Ogier, depuis 2021, il a réduit son programme. C'est un pilote à temps partiel, Vincent. Ça veut dire qu'il ne participe pas à toutes les manches du championnat du monde. Cette saison, il n'en a fait que 10 sur 13. Pouvoir concilier vie de famille et sport de haut niveau. Et sur les 10 courses, 9 podiums, 6 victoires. Donc voilà. Il arrive à jouer le titre de champion du monde encore, Sébastien Ogier, en allégeant ses programmes. Mais quand on compare les statistiques, franchement, les deux sont extrêmement proches niveau palmarès, que ce soit même sur les petits détails, sur les surfaces sur lesquelles ils ont gagné. Ils sont vraiment très proches l'un de l'autre.
Alors, Loeb est-il toujours au-dessus d'Ogier pour Vincent Moscato?
Mais c'est différent. Loeb, c'était le premier médiatique. Le premier, d'abord, c'est 9 titres consécutifs. Ça, je trouve que c'est un exploit. Tu peux le mettre en parallèle avec Ogier, qui lui a fait été dans 3 marques différentes.
Ça, c'est
aussi un exploit. Mais je mettrai Loeb, parce que Loeb, c'est le premier qui a été médiatique, qui a été un support pour son sport. Être un support pour son sport, c'est très important. Rappelle-toi, tu te souviens de Loeb, tu te souviens aussi d'Auriol. Ogier, il est plus discret. Mais c'est important pour un sport, il faut le porter, ce genre de truc. Oui, bien sûr. Et puis Loeb, le problème de Loeb, il a fait toute sa carrière 9 trucs, plus de 10 avec ans, en étant sourd, parce qu'il avait un problème au Loeb. Et donc, avec Kelena, avec un petit grassouille à côté, ils se sont fâchés. C'est dommage parce que l'équipe était bonne.
Bonjour de boule.
Elena. Mais c'est très, très bien. Les deux super, super pilotes, bien entendu. Mais la primeur, tout le monde en parlait. Il était parti. C'est important pour ces sports qui sont pas très connus du grand public. C'est important d'être un support, de le faire connaître. Et Loeb était l'homme providentiel. Même Auriol en 94, quand il est champion du monde. Crois-moi, il en parlait. Attention, je sais pas si Auriol n'était pas plus médiatique. C'est Hubert Auriol.
Didier
Auriol. Hubert qui c'était Hubert Auriol.
Le Dakar.
Auriol. Tu vois, Auriol, voilà. Il y a eu Vincent Auriol aussi.
Oui, mais alors c'est pas le même sport.
À l'Élysée,
c'est vrai, c'était un politicien. Un homme politique.
Non.
Stephen.
C'est président de la République.
C'est Vincent Auriol?
Oui, mais c'est
président de la République.
Oui, bien sûr.
Quelle République?
Bien avant Mitterrand.
Alors, on a Eric, qui est devant l'autre?
C'est une bonne question, parce que même s'il y a un titre de retard qui peut être comblé ce week-end, il y a vraiment des arguments pour les deux. D'accord avec Vincent sur le fait que Loeb, c'est le premier, 9 titres d'affilée, icône médiatique, puisqu'on l'a vu faire des pubs à la télé.
Sans mettre le nom dessous, tu vois.
Disons qu'il est sorti du cadre du rallye, quoi, parce que tu notes la notoriété sur ce plan-là, c'est-à-dire qu'il faut arriver à sortir de son sport. En rallye, malheureusement, il y a Darnish qui l'a fait. Rappelle-toi quand il s'est fait greffer les cheveux là et qu'il faisait des pubs pour. Tu te rappelles qu'il était chauve, il a une mèche. On le voit pour la sécurité routière régulièrement. Ça a été un très grand pilote. Il était médiatique aussi à l'époque. Sauf que moi, ce qui me plaît chez Ogier, c'est la longévité, Nicolas dit, et surtout, il a gagné avec plusieurs voitures différentes. Et ça, c'est quand même significatif, tu vois. C'est comme si tu me dis Verstappen, il est 9 fois de suite avec Red Bull qui est la meilleure voiture du plateau. C'est super, mais regarde Hamilton quand il se met en danger, qui va chez Ferrari, d'un coup c'est plus pareil. Voilà, ben lui il a fait ça, il a pris ce risque là. Ouais. Et ça c'est quand même à mettre à son crédit. Voilà. Donc là aujourd'hui j'arrive pas à les départager. Lundi, si tu me refais le débat qu'il est 9 fois champion du monde Ogier, je pense que j'aurai une préférence pour Ogier à ce moment-là.
Ah ouais, non mais toi tu me dis que le niveau il était faible. Hier on fait un débat, tu me dis il y a pas de niveau. Cette année ils sont nuls. Donc tu me dis d'ailleurs.
Heureusement, tu sais, on a de la chance à la radio. C'est que les bandes on les garde. Hein. Et Suzanne les ressortira quand on recevra Ogier.
Stéphane,
la gueule quand même. Hein.
Moi c'est un débat que tu
imagines s'il fait 90 et
100 kilos. 120 kilos, bon je risque rien comme pilote en général, ça arrive pas.
C'est un débat qui est embêtant pour moi parce que après Sébastien Loeb, j'ai arrêté de suivre ce sport en fait. Pour moi ce sport a disparu après Sébastien Loeb, parce que comme Vincent l'a dit, Loeb c'était un peu le précurseur. Il y avait Auriol, moi j'ai pas connu.
Loeb c'était
ma génération.
Comme moi le basket c'était... quand t'as arrêté.
Ouais, je sais, mais Loeb c'était aussi Citroën, constructeur français.
Oui, t'as raison.
Ça nous parle aussi quand t'es 9 fois champion du monde avec un constructeur français. Ça parle un petit peu plus quand t'es avec Toyota ou Volkswagen. Et puis Eric en a parlé, ou Vincent, je sais pas si vous l'avez fait hier. Moi, cette concurrence avec des noms qui me parlaient, en fait. Quand t'avais Solberg, quand t'avais Sordo, c'était des noms qui, tu vois, t'avais cette compétition. Aujourd'hui, je connais pas les concurrents de Dogier.
Ah bon, Tanak. Ouais, mais c'est parce que tu t'intéresses pas que tu connais pas. Parce que ce que tu viens de dire, que tu t'intéressais avant.
Ce sport m'a perdu, en fait. Parce que je sais pas pourquoi il m'a perdu, mais parce que l'homme était le premier. Je peux pas comparer les deux. Pour moi, l'homme restera toujours devant Ogier, tout simplement.
Après, les mecs, souvent les mecs,
la parole à Alexis au 32-16. Vous êtes très nombreux à faire au
32-16. Ils nous regardent plus, Nicolas.
On parlait rallye sur RMC, donc nous accueillons Alexis. Salut Alexis.
Salut à tous.
Comment il va, Alexis?
Eh ben ça va, impeccable, un peu enrhumé, mais ça va.
C'est pas grave, t'as qu'à mettre une écharpe.
Qui est au-dessus de qui?
C'est Loeb qui est un petit peu au-dessus. Moi, le seul regret que j'ai, c'est qu'ils ont été qu'une saison coéquipiers et j'aurais bien aimé qu'ils le fassent un petit peu plus souvent.
Ouais.
Maintenant, Ogier, il s'en va, il revient. Moi, je pense que... l'année dernière, Loeb, il est revenu, il a gagné Monte Carlo. Loeb, moi, je pense qu'il s'est arrêté pour faire autre chose et que s'il avait continué, il casserait la gueule à tout le monde. Mmh. Et Loeb, il a battu, je crois que c'est Eric qui vient de le dire, il a battu des Solberg, des Grönholm, des Carlos Sainz, avec des voitures comme des Mitsubishi, des Subaru, des Peugeot. Il y avait un vrai niveau. Là, les voitures, elles sont un peu perdues. Enfin, c'est des petits modèles, quoi. Et je trouve que le rallye des années Loeb était un petit peu plus joli. Et pour moi, Loeb, l'année dernière, il y a juste à regarder le rallye de Monte Carlo. Il est revenu, il a cassé la gueule à tout le monde. Mmh. Après, il est parti. Il a fait le Dakar, il a fait Pimpix, il a fait, il a fait plein de trucs. Et moi, je pense que s'il avait continué là, il serait peut-être 10, 12, 13 fois champion du monde.
Le problème, c'est qu'on les a pas assez vus l'un contre l'autre. Il faudrait qu'au JI, on parle de Dakar, en fait. Non, mais ils se sont croisés quand même sur le championnat du monde des rallyes, Alexis.
Ils se sont croisés, 2017.
Et Ogier n'était pas du tout ridicule, hein.
Non, j'ai pas dit qu'il était ridicule. J'ai pas dit qu'ils étaient.
Non, mais il y aurait eu une bataille historique, en fait.
J'ai dit qu'ils n'ont pas été suffisamment. En fait, ils ont été en 2013, je crois, tous les deux chez Citroën.
Attends, est-ce que tu as déjà les chiffres de la confrontation, Nico Paul Orfi?
Je les ai pas. Attends, je te cherche à Perrault. Je vais te dire ça.
C'est con parce qu'on aurait
pu.
On aurait pris un journaliste compétent.
Citroën, Loeb est champion du monde et Ogier est troisième, mais parce que Citroën privilégie Loeb en fait, en disant que c'est champion du monde en titre.
C'est vrai qu'on aurait aimé les voir plus à la bataille l'un contre l'autre.
Mais ça, ça aurait été quelque chose de magnifique. Et en plus, ça aurait été possible. En plus, malheureusement,
ils ont que 10 ans d'écart,
ça s'est pas assez vu. Mais concernant la notoriété du WRC, la manière dont c'est filmé aujourd'hui et la formule d'aujourd'hui qui fait que le dimanche est très spectaculaire, ou en tout cas il y a des points en plus. Regardez ce week-end, si vous avez l'occasion, regardez, ça n'a jamais été filmé comme ça, le WRC, même à la grande époque. Moi je suis de la génération de Sandro Munari et toute la Lancia Stratos et tout. T'en souviens-toi, Vincent, de l'époque, peut-être pas, tu es jeune. Les Lancia Stratos, tu te rappelles pas?
C'était
Sandro Munari, donc qui était le pilote de l'époque Lancia, qui roulait sur tout le monde avant qu'il y ait les quatre roues motrices qui arrivent. Et il y avait des pilotes merveilleux à l'époque. C'était très populaire, le rallye, à l'époque. Là aujourd'hui, c'est moins populaire, mais regardez à la télé ce que ça donne. Vous allez voir.
Écoutez, Monsieur Zitron, on n'a pas le temps de refaire tout le rallye.
Alors quand on regarde les palmarès maintenant, il y a quasiment plus différence. Hein. Il y a des petits avantages pour l'un, des petits avantages pour l'autre, mais ça se vaut vraiment.
Je te fais un pari, Pierrot. 2027, Dacia devrait revenir en rallye.
Dacia, c'est Sébastien Loeb. Ça le gratte. Il va vouloir avoir le 10e titre. Il va revenir à 52, 53 ans. Il va tenter de revenir sur
ou alors
sur
il viendra dépasser. Juste pour empêcher au JT.
Oui, sur un rallye ou deux, ce serait énorme.
On revient tout de suite sur RMC avec le journal moyen et Didier Deschamps.
RMC jusqu'à 18h, le meilleur du Super Moscato Show.
Adrien Aygouin, Pierre Dorian.
Le meilleur du Super Moscato Show sur RMC, 16h45, journal moyen, deuxième édition.
La deuxième édition, Pierrot, sur RMC, j'ai du Deschamps, du Didier, tout neuf pour toi.
Ah, vide.
Quelques saucisses, quelques vents radiophoniques de toute la Dream Team RMC ce week-end. Et puis, 16h55, première question du Kikadi du jour. Ce sera chacun pour soi. Denis, tu représenteras Eric Dimeco qui arrive à 17h. Vous écoutez RMC, c'est le 2326e journal moyen de l'histoire du Super Moscato Show.
En direct live, en plein milieu de la rédaction d'RMC, toutes les infos que vous n'avez toujours pas entendues sont dans le journal moyen. Deuxième édition.
Du direct ce week-end, UBB La Rochelle avec Nicolas Paul Orsi au commentaire. Nouveau mot, Nico.
Il va trouver directement la touche Anton Astoy, alors qu'on a l'impression que Bordeaux est dans le dur et les Bordelais qui jouent cette touche rapidement alors que tout le monde est désorganimé. Et Jeanne Mousquez qui va taper dans l'axe dans le champ profond.
Désorganimé, je trouve ça magnifique. Ouais, c'est très imagé. Alors Nico, déjà vendredi chez nous dans le Moscato Show, nous avait inventé une nouvelle expression.
Bordeaux fait tout pour dépasser Toulouse et Yannick disait en conférence de presse on veut tutoyer le stade toulousain dans les yeux, on veut les battre.
Tutoyer dans les yeux. Et Yann Delegue hier a pris un peu de temps dans ses journées pour travailler sur RMC.
Dans son planning.
Il nous parle de Pau, il veut nous parler de Théo Atisokbe, mais réflexe, il est bon Yann, il met un petit coup de frein avant Atisokbe, il se fait aider par Wilfried, l'instinct de survie.
Qu'ils ont encore très bien recruté cette année. Là, par contre, ils sont quasiment au complet. Et encore, il manquait quelques jeunes joueurs. On connaît Gaëtan Asikobé aussi. Il y a quelques joueurs qui manquaient aussi, mais malgré tout.
Ouais. Et limite, il y a la mâchoire. Asikobé, Denis, tu l'as ?
Tu sais, le roi du
5 à 7.
Ah, mais il est fatigué. Hein. Il est à l'usine tous les jours.
Il paraît qu'il a un planning, ce Yann, incroyable.
Yann, que des rancards.
Tu vas bien t'entendre avec lui en ce moment, Adrien, d'ailleurs.
J'ai écouté les grandes gueules du sport. Ils imaginent dans les grandes gueules un moment dans un délire Pascal Duprat en combattant MMA. On plaisante, et à ce moment-là, Jérôme Pinault nous parle d'un sous-vêtement. Je ne savais pas qu'on pourrait le dire comme ça, Vincent.
Pascal Duprat, notre combattant MMA. Ouais. On a découvert
notre grand rêveur.
Je l'ai. Et tu sais que ce qui serait pas mal, c'est de les affubler tous les deux. Non pas d'un short de combattant MMA, mais d'un petit slow bar de catcheur.
Slow bar,
un spectacle.
Sumo, ça pourrait être très beau. Je savais pas qu'on disait un slow bar, mais on peut le rentrer dans le vocabulaire. On va faire le lexique des GG du sport à la fin de l'année.
Slow bar, c'est
un
petit slow
bar. D'abord, c'est pas un slow, c'est un slow bar.
Un slow bar.
Pourquoi ? Parce que le S avant une consonne en début de mot, c'est un Z.
Denis Charvet dans les grandes gueules du sport nous parle de Carlos Alcaraz, ou presque.
Surtout, ce qui va être important, c'est surtout du dur. C'est plus la terre battue. Normalement, Sinner, il est meilleur. On va voir. Moi, j'aimerais voir si Alcazar va aller le titiller.
Alcazar,
c'est dans Saint-Tintin. Tu rappelles le général ?
On peut recommencer au début, là.
Ouais. Parce qu'au tout début, il y a un mot très bizarre.
Ah, mais je vous ai pas prévenu, c'est vrai que bon.
C'est-à-dire, c'est un moment au milieu.
Excusez-moi, j'aurais dû vous prévenir, Pierrot. J'aurais dû te prévenir. On écoute l'entrée. Ça se termine par Alcaraz, mais bon, au début, il y a ça.
Et surtout, ce qui va être important, c'est surtout du dur. C'est plus la terre battue. Normalement, Sinner, il est meilleur.
On a oublié la surface.
J'aimerais voir si Alcazar va aller le titiller.
Alcazar, c'est dans Tintin. Tu te rappelles le général ?
Oui, mais Denis, c'est un hommage à Jean-Marie Rivière.
Alcazar. Ouais.
Voilà, le dernier avec Jean-Marie Rivière, le meneur de rugby.
La première phrase, elle a eu du mal à sortir.
Oui, la première phrase. Oui.
Et puis, je voudrais te rendre hommage, Denis, parce que dans les paris RMC, sur un talonneur qui joue au MHR à Montpellier, tu es sur un fil, il tente de se moquer de toi, mais en fait, ça passe.
Je laisse réfléchir peut-être à des marqueurs d'essai parce que je sens que Christophe.
Marqueur d'essai, oui, le talonneur de Montpellier. Ulysée, comment on l'avait. Est-ce que tu l'as ?
C'est pas Michael.
Alors attends.
C'est pas Michael Ulysée qui a marqué
c'est
hier.
C'est Ulysée, non ?
Non, Ulysée. Avec Ulysée.
Alors, je vais te le chercher.
Avant de finir.
Oui, il est à 3,75.
Uilisé, oui, je n'ai pas facile à dire. Jordan Uilisé, hein. Talonneur international australien, né en Nouvelle-Zélande. U-E-L-E-S-E. C'est pas facile à prononcer.
Très bon.
Ouais, il est très bon celui-là. Il marque des essais, Denis.
C'est à Paris. Ils ont fait quoi au Palier ? Ils ont gagné ?
Ouais, ils ont pris une décharge à domicile face à Toulon.
Première mi-temps de décharge électrique.
Ouais, il va falloir faire quelque chose là, Vincent.
Non, non, mais ils ont l'équipe. Ils vont se refaire. Mais c'est pas... Toulon a très, très bien démarré. Très, très bien, attention. Là, avec un très gros niveau. Et eux, ils étaient moins prêts.
Sans transition, vendredi, les Jeux, les Bleus, l'équipe de France joue un match de foot.
Et la Dream Team des RMC. Et la Dream Team des RMC. Non, j'ai arraché. Ouais.
Victoire en Pologne des Bleus face à l'Ukraine. Des 2-0. Juste après le match, sur la pelouse, Didier Deschamps se présente sur le plateau de TF1 avec Thomas Mekic et Bichentel Izarazu. Didier a-t-il accroché? Nous a-t-il laissé quelques petits cadeaux? En général, j'ai remarqué, c'est tout se joue sur la première réponse, Vincent. Ça détermine tout le reste de l'interview. On écoute donc la première réponse. Est-il parfait ou va-t-il accrocher?
On va revoir ensemble le résumé de cette rencontre. Ça a démarré très vite avec Michael Olise. Votre premier ressenti?
On a très bien maîtrisé notre première mi-temps.
J'ai dit à Suzanne, notre réalisatrice, j'ai dit, bon, ben, vu la première, on va écouter la suite. Donc avec Suzanne, on a écouté la suite. Elle vous ajoutait même à la fin un petit extrait de la conférence de presse d'après-match. Voilà, pour bonbon, tu vois. C'est parti, on écoute la suite. Le début et la suite.
On a très bien maîtrisé notre première mi-temps. Après, on a eu un peu de flottement à l'heure de jeu. Ici, avec cette équipe ukrainienne qui a de la qualité. La qualité offensive, l'animation offensive est intéressante.
Ça, c'est une équipe d'Ukraine qui était plutôt bombédant ou bas.
Il a voulu dire bloc médian.
Bloc médian. Oh, ouais.
On peut réécouter. Vous voulez écouter
la dernière.
On a le temps, il nous reste du temps avant la première question de Kikadi. Tu dis plus rien, toi.
Oh là, c'est dur.
Didier Deschamps, Ukraine-France. 2-0, bravo Didier.
On a très bien maîtrisé notre première mi-temps. Après, on a eu un peu de flottement à l'heure de jeu. Ici, avec cette équipe ukrainienne qui a de la qualité. La qualité offensive, l'animation offensive est intéressante.
Ça, c'est une équipe d'Ukraine qui était plutôt bogmédan ou bas.
Il est Pierrot, arrête.
C'est drôle.
Voilà.
Il nous fait des cadeaux.
Des cadeaux c'est mon métier. Ouais, donc désolé, je suis obligé de vous le passer. Ouais. Hein. Sans transition, Formule 1 avec le retour de la légende. C'était un week-end de Formule 1, Monza et la Formule 1 sur RMC. C'est avec Jean-Luc Roy. Jean-Luc Roy, son analyse, son expertise et son rire légendaire. Vendredi, Jean-Luc était dans le Moscato Show et notre réalisatrice Suzanne a eu la très bonne idée d'enregistrer juste la voix de Jean-Luc qui a beaucoup ri. Ça tombait bien, vendredi il a beaucoup ri. On est fan, le best-of des rires de Jean-Luc pendant... Ça dure 12 minutes son passage dans le Moscato Show. Un petit condensé, il aime bien rire et on adore ça. Jean-Luc Roy.
Et la queue du Mickey au rétroviseur aussi, t'es d'accord? Le castor, oui.
C'est un phénomène.
Ça me fait trop
c'est un phénomène, ouais. Ah non, mais il est communicatif, je te le dis.
Ah, le rire, quoi. C'est
gras
par excellence.
Ah ouais, ouais.
Non, mais là,
c'est incroyable.
La queue de Mickey, c'est quand même bon.
Va falloir en profiter de Deschamps, là.
Oui,
hein.
2026. Parce qu'avec Zizou, ce sera pas. Il y aura pas les conférences de presse que vous venez d'entendre, on les aura pas avec Zizou.
Est-ce que moralement, on aura le droit de continuer de faire des illustrations avec les hésitations de Deschamps une fois qu'il sera plus sélectionneur?
Il a annoncé la couleur, Didier, il veut continuer d'entraîner. Donc je rêve d'un Didier en Angleterre ou en Italie.
Mais s'il n'a pas de club, est-ce qu'on a le droit?
Oui, on a le droit. On a tous les droits, bien sûr.
Dans un instant,
La
Coupe du Monde de foot. Alexis Pinturo, Clément Noël, c'est le Super Moscato Show. Vous êtes sur RMC.
RMC jusqu'à 18h.
Le meilleur du Super Moscato Show.